au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 quatre fois bonjour, parce qu'il fait encore quatre fois plus beau aujourd'hui que la semaine dernière. Bon, ça y est. Salut Mathieu.
Bonjour Denis Martin, bonjour.
Alors,
tout le monde.
Oui, hein, du soleil ce matin. J'ai sorti mes verres fumés depuis quelques jours.
Mais c'est pour ça que vous avez l'air cool ce matin.
Oui, bien là, je ne les ai pas quand même, là, parce que ça fait pas facile à lire. Alors, une émission toute chargée. Allô, Daniel Rioux, qu'on rejoint au téléphone, ça va bien?
Oui, bien, merci.
Oui, ben, hey, bonne fête des mères.
C'était hier, mais on va
le dire aujourd'hui, nous autres, parce qu'on n'était pas en ondes hier.
Ben oui, tout à fait. Ben merci beaucoup à toutes les mamans, les grands-mamans.
Tout à fait.
Les petites mamans qui attendent des bébés.
Oui, puis ben moi, je pense toujours à la mienne. Ça fait 15 ans. Ça va faire 15 ans cette année qu'elle est morte.
C'est le temps passe vite.
Hein?
Oui.
Oui, oui, oui. Alors, on parle de quoi aujourd'hui avec toi, puisque tu es là?
Ben, ce qu'on a mentionné mort, ben écoutez, moi j'ai des. C'est peut-être morbide, mais c'est pas tant. On n'y pense pas, puis ça m'intriguait. Alors, c'était dans le courrier international du mois de février dernier. Celui qui cherchait les morts.
Mmh.
Hein? Puis allez voir dans quel contexte il cherche les morts. Et puis c'est pas que lui qui fait ça, ça se fait depuis un sacré bout de temps.
Bon, on va chercher nos morts.
Oui, absolument.
Et puis, évidemment, notre autre chroniqueur dans l'insolite aujourd'hui, Louis de Bernis.
Bonjour.
On parle de quoi aujourd'hui?
Bonjour, Denis Martin. On parle d'une étude scientifique sur les animaux, d'abord, qui est très étonnante, qui a surpris énormément, visiblement, les scientifiques. Une étude sur les oiseaux, et les oiseaux seraient plus effrayés par les femmes que par les hommes. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé.
Des oiseaux misogynes?
Et c'est un peu ça. Et puis, on ira aussi au Royaume-Uni, où une offre d'emploi alléchante pour garder un chien, justement, a fait de nombreuses candidatures. Il faut dire que pour l'équivalent de 110 000 $ canadiens proposés, il y avait des gens qui se bousculaient à la porte.
Ouais, mais il faut se poser des questions. 110 000 $, il y a peut-être des problèmes qui viennent avec ça. Peut-être genre chien prêt, fatigant, mais on va en reparler tout à l'heure. Et puis moi, je vous propose une entrevue avec Marcel Dubois, qui a créé le théâtre aux Écuries à Montréal et qui quitte son poste de direction artistique. On va faire le bilan et voir ce qui s'en vient là-bas. On va parler aussi de cet événement qui s'appelle Sous la voûte du présent avec André et Papa Thomas. Et on a Barbara, l'artiste pluridisciplinaire, qui sera avec nous en fin d'émission. Et puis, ben, puisque c'est le début d'émission, parlons un peu de météo. Hein, j'en ai parlé un petit peu. Il fait beau. Il y a quand même possibilité d'averse et un risque d'orage en après-midi au Québec, là, un peu partout au Québec. Mais bon, on est dans la bonne voie. Il y a des risques de gel hein, cette nuit, même dans la région de Montréal, parce que ça va descendre autour de 3 degrés. Là, ça peut arriver. En Ontario, même condition qu'ici. C'est un peu plus chaud, par contre. On parle de 13 degrés dans le sud, puis dans le nord, 10 degrés. Et puis, province atlantique, conditions brumeuses, même chose qu'ici, hein, possibilité d'averse, température autour de 14 degrés. À Terre-Neuve, c'est plus dans le brouillard, ciel variable, 10 degrés. Bien, là où il fait quand même un peu plus chaud, c'est des possibilités d'averse et risques d'orage, là aussi, dans les prairies, 12 à 17 degrés. Et on affiche un ciel dégagé avec une température autour de 17 degrés en Colombie-Britannique. Wow! Alors, eux autres ont des journées... vraiment, c'est le début du printemps. Un petit tour pour en parler de l'éphéméride aujourd'hui. Alors, vous savez qu'en 1330, c'était l'inauguration de la ville de Constantinople par Constantin le Grand, qui s'est devenu maintenant Istanbul. Et puis en 1980, c'était l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, qui a fait deux mandats. À l'époque, c'était des 7 ans, dont des 7 ans. Il a fait 14 ans de pouvoir. Mm-hmm. Naissance en 1904 de Salvatore Dalí. Hein. Alors, cette 131e journée de l'année, je vais le dire sans rire, mais c'est parce que... Ben, je vais juste le dire pour vous laisser ça là. C'est le saint du jour, c'est Saint Mamère. Hein. C'est un évêque, bon, j'ai de la misère à le dire, ça y est, je l'ai perdu. C'est l'évêque de Vienne au 5e siècle, connu pour avoir institué les rogations, 3 jours de prière et de procession pour demander la bénédiction des récoltes et la protection contre les catastrophes naturelles. Saint Mamère. Ah, parole de la mère patrie après ça. Et puis, ben moi, je suis allé voir Turandot, version concert en fin de semaine, avec l'orchestre philharmonique et la chorale des mélomanes. C'était sous la direction de Francis Chouanière. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. La critique du devoir est un peu plus dure envers les interprètes, les solistes, parce que c'est une version concert. Bon, j'ai pas noté tout ça, mais cela dit, l'air Nessun Dorma de Turandot, dans Turandot, est tellement beau, ça a tellement été interprété. Puis bon, on va le donner à un des plus grands ténors de tous les temps.
Nessun dorma, fredda stanza,
c'était Luciano Pavarotti à l'ouverture des Jeux olympiques de Turin. C'était en 2006, c'était sa dernière performance publique. Luciano Pavarotti est décédé en 2007. Quelle voix, quelle performance. Et puis, ben, je vais me vanter, je l'ai vu deux fois en spectacle et j'ai eu l'occasion de l'interviewer, il faut le faire. Il parlait plus ou moins assez bien français, il faut dire. Alors, c'est le temps de faire les unes. Le devoir, virage technologique qui était tant attendu dans le réseau de la santé, bien, ça connaît un bon début jusqu'à maintenant, le dossier de santé numérique depuis son lancement officiel samedi dans les régions pilotes de Mauricie, centre du Québec et nord de l'île de Montréal. Bien, on n'a aucun incident majeur de rapporter. C'est sûr qu'il y a des lenteurs, notamment dans la distribution des médicaments dans des CHSLD et puis quelques soucis de connexion, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Les autorités rappellent que des équipes de soutien technique sont déployées en permanence pour corriger les bugs de jeunesse, qu'on appelle, et faciliter la transition historique vers un système sans papier. Le vrai test, ça va être aujourd'hui, parce que là, tout le monde rentre au travail dans le service de santé, même si on réduit un peu les activités. Eh bien, on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors, le budget alloué, je le mentionne, au fonctionnement là, du dossier de santé numérique, c'est évalué à 100 millions de dollars annuellement. Dans la presse plus, les quatre derniers voyageurs canadiens qui étaient bloqués à bord du navire de croisière MV Ondius sont de retour au pays. Après des semaines d'incertitude et une période de quarantaine stricte en Argentine, ces passagers ont pu regagner le pays plus tard hier soir. Les passagers demeureront en quarantaine sous surveillance pendant un peu plus de deux semaines après leur arrivée en Colombie-Britannique. Ce portera leur durée totale de quarantaine à 21 jours depuis le 6 mai, le dernier jour où un cas confirmé d'antivirus a été détecté à bord du navire. Mais en France et ailleurs, c'est vraiment 40 jours qu'on met, 42 jours de quarantaine, et ça se pourrait qu'on double ici aussi pour assurer donc qu'il n'y a pas de cas de propagation, parce que ça peut se propager cette sorte-là, ou ce type de virus-là entre humains. L'expédition polaire, donc, avait tourné au cauchemar sanitaire à la suite d'une éclosion de hantavirus parmi les membres de l'équipage et les voyageurs. Le hantavirus se transmet principalement à l'humain par l'inhalation de particules provenant d'excréments, de rongeurs, de l'urine ou de la salive. Mais dans le cas de ce virus-là, ce type-là, il y a eu des cas de transmission entre humains. Alors voilà pourquoi il y a des quarantaines jusqu'à maintenant. Dans Le Devoir, Québec solidaire conclut son congrès annuel avec l'adoption d'une nouvelle plateforme électorale que les porte-paroles qualifient d'ambitieuse, mais surtout de crédible. Les militants ont donné le feu vert à un cadre financier rigoureux visant à démontrer que le parti est prêt à exercer le pouvoir. Parmi les priorités confirmées, on retrouve des investissements massifs dans les services publics et une accélération de la transition écologique. Gabriel Nadeau-Dubois a souligné que cette mouture se veut une réponse directe aux critiques sur le réalisme économique des engagements solidaires, tout en maintenant le cap sur la justice sociale. Puis toujours dans le cadre de ce congrès, bien, Québec solidaire tente de rassurer les plus fortunés, dont l'homme d'affaires François Lambert, au sujet de sa taxe sur les grandes fortunes. Le co-porte-parole du parti, Sol Zanetti, affirme que cet impôt de 1 % sur les patrimoines de plus de 25 millions de $ ne changera pas le quotidien des multimillionnaires. Pour sa part, il s'agit d'un levier nécessaire afin d'augmenter les revenus de l'État et de financer les services publics. L'impôt sur la fortune proposé par Québec solidaire prévoit aussi un autre plateau, celui de 100 millions et plus, et là, ça serait un taux de 2 %. Ça n'est suivi tout un débat sur les réseaux sociaux avec François Lambert, qui est allé d'un Vogue bien senti. Disons que le discours s'est par la suite élevé, mais le riche homme d'affaires a fait l'objet de beaucoup de critiques suite à son commentaire. En plus de la taxe sur la fortune, la proposition solidaire inclut l'imposition de la totalité des gains de capital tout en excluant la résidence principale et les producteurs agricoles. Et puis, bon, ben, je vais terminer avec la bonne nouvelle du jour. Le Canadien a conclu sa saison sur une note explosive en dominant les Sabres de Buffalo par la marque de 6-2. Dans un match sans enjeu pour le classement, les joueurs de Martin Saint-Louis ont offert tout un spectacle à leurs partisans, porté par une attaque déchaînée. Cette victoire éclatante permet aux tricolores de terminer l'année avec le sourire, mais l'absence des éliminatoires, permet de terminer cette victoire avec un sourire. Mais là, ça se continue. Il y a d'autres matchs. Il faut faire un 4-7. Et puis, au niveau des paractualités, aujourd'hui, à Ottawa, dans le Radio-Canada du 9 mai, les parents d'un enfant âgé de 2 ans lancent un appel à l'aide urgent pour financer un traitement médical aux États-Unis. Le jeune Sami Labiad est atteint de la dystrophie des ceintures, une maladie génétique rare qui provoque une forme de fonte musculaire progressive. Sans intervention, les médecins prévoient qu'il perdra l'usage de ses jambes dès l'âge de 6 ans. Puisqu'aucun traitement n'est actuellement disponible ou couvert au Canada pour cette pathologie, la famille se tourne vers un protocole de thérapie génique mené en Virginie. Le coût des soins et du suivi est estimé à entre 500 000 et 1 million de dollars en devises américaines ou états-uniennes. Une campagne de sous-financement est en cours pour amasser les fonds nécessaires avant que les dommages musculaires ne deviennent irréversibles. La famille Labiad se rendra à Queen's Park le 13 mai pour sensibiliser les élus aux enjeux des maladies rares. Et puis, dans le soleil du 10 mai, une citoyenne de Lévis, Jennifer Breton, se prépare à parcourir plus de 1100 km à vélo pour honorer la mémoire de son grand-père, Rosa Chrétien. Ce périple intitulé « La promesse de 1966 » l'amènera de Saint-Ferdinand jusqu'au Rocher Percé en septembre prochain. L'initiative vise à amasser 10 000 $ pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Pour ce défi, la cycliste souhaite souligner le dévouement des proches aidants s'inspirant de son grand-père qui a pris soin de son épouse atteinte de la maladie pendant plusieurs années. Pour réaliser ce trajet symbolique, Jennifer Breton utilisera un vélo offert par une autre femme elle-même atteinte de la sclérose en plaques. Les fonds recueillis seront versés à la section Chaudière-Appalaches de l'organisation d'organismes pour soutenir les personnes touchées par cette maladie dégénérative.
Quand vient le temps de chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage. J'essaie d'attraper les lueurs qu'il reste de ce que tu es. Quand la garde baisse et les cris s'enchaînent comme les éclairs que tu me lances en SOS, les cris reviennent sur terre. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme une cathédrale. les ombres mènent le bal sur tes pensées. Celle qui éclipse le chemin traversé. Les heures s'effondrent quand tu ne peux plus battre. Les fois qui font que ton cœur éclate. Et si on ne peut plus s'élever, je ne serai qu'une aile qui peut t'aider à voler. Je ne sais plus t'aider. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'es. De chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage.
Château de sable, une chanson de cœur de pirate.
Faut-il ne pas avoir de sable dans les yeux parce que ça peut nuire à la lecture? Bon, OK, c'est un petit jeu de mots, puis une amorce qui ne fonctionne pas, mais bonjour, Daniel.
Bonjour,
ça m'arrive des fois de me tromper dans ce que je voulais dire, mais bon, c'est bon, ça, on peut
c'est
pas,
bien
toujours, pas toujours être bon. Mais ça pour dire que, oui, on va parler de mort.
Oui, de mort, mais d'une façon, une façon particulière. C'est un article dans le Courrier international de février dernier, et puis ça m'a intriguée, puis je pense que ça vous intrigue aussi, donc je commence. « Celui qui cherchait les morts », c'est le titre. C'est Oleg qui avait 7 ans quand, dans son quartier à Donbass, les autorités, on se retrouve en Ukraine, les autorités ont démoli un vieux cimetière pour préparer la construction d'un hôpital pour enfants. Tandis que des bulldozers dévastaient les tombes, les restes sont remontés à la surface. Et pour lui, le spectacle vraiment choqué, il y avait des ossements, des colonnes vertébrales brisées, des crânes avec encore des cheveux. Et il y avait des adolescents aussi, plutôt macabres, qui les plantaient sur des branches ou sur les clôtures. C'était pour lui un cauchemar. Il a seulement 7 ans, le jeune homme, le jeune garçon. Moi, j'ai rassemblé des restes et je les ai mis dans un trou. Tout le monde se moquait de moi, mais je me disais, et si parmi eux, il y avait mes proches? Ça a été ma première rencontre avec la mort. C'est plus tard qu'il a été confronté aux conséquences de la guerre, soit à 13 ans. Des combats avaient eu lieu dans un bois voisin pendant la Seconde Guerre mondiale. On en rapportait de la ferraille, et moi j'étais gamin, et la guerre m'intéressait, les douilles, les balles. Mais quand je me suis retrouvée là-bas, j'ai été stupéfiée. C'était le printemps. Tout était vert et commençait à fleurir. Puis, je me suis rapprochée et j'ai distingué des ossements. Il y en avait tellement éparpillés partout dans les sous-bois. Il y avait aussi de l'équipement et des affaires personnelles. La majorité appartenait à des soldats soviétiques. Il y avait peu d'Allemands. Je me suis demandé comment est-ce possible que des combattants qui ont donné leur vie pour défendre leur pays gisent sans sépulture dans la forêt. Alors, Oleg a alors entrepris de collecter les restes par lui-même, de les enterrer dans des fosses surmontées de croix. Et 6 mois plus tard, il a rejoint un groupe de chercheurs locaux, et c'est là qu'il s'est engagé sur la voie de la recherche des soldats morts. Ma mission, c'est de retrouver les âmes abandonnées avec le corps. Et jusqu'en 2022, le groupe de chercheurs d'Oleg a retrouvé les restes de quelques 4000 soldats soviétiques, environ 2000 Allemands et alliés de l'Allemagne, 600 victimes de la répression politique et 150 soldats de la Première Guerre mondiale. Et tout ça se passe en Ukraine. Mais maintenant, sur le lieu des combats du siècle dernier, se déroulent de nouvelles batailles, hein? avec le début de la guerre totale, non seulement il y a plus de travail, mais il y a aussi plus de souffrance. Et lui, Oleg, ne pouvait pas imaginer que ça serait comme ça un jour, même si je sentais que la guerre n'était pas finie. Pour lui, le plus important, c'est que les familles des tués et des disparus sachent qu'on n'oublie pas leurs proches. Alors, depuis 2022, le groupe d'Oleg a retrouvé plus de 3500 corps de soldats. Ils travaillent aussi bien dans les zones libérées que sur le front. Ils emportent toujours avec eux, les chercheurs, des pelles, des instruments particuliers, des pelles, des sondes, des drones, des détecteurs de métaux, des robots terrestres. Alors, ils sont bien équipés maintenant. Si les recherches durent plusieurs jours, ils prennent de l'eau, des vivres et des sacs de couchage pour coucher sur place. Et l'an dernier, ils ont ajouté à leur attirail des fusils anti-drones. Les rencontres avec la mort épuisent autant l'âme que le corps et il y a peu de temps pour se ressourcer parce qu'au nombre qu'ils ont, on s'imagine. Quand on collecte jusqu'à 100 corps dans une journée, on rentre à la base et on ne peut plus manger ni même parler. On est carrément épuisé sur le plan émotionnel parce qu'on a vu tant de visages de morts. Il parle du parfum de la guerre, l'odeur de la mort et de la décomposition te poursuit partout et on tombe juste de fatigue. On ferme les yeux une seconde et une heure plus tard, il faut se réveiller. En 2023, le groupe a perdu un de ses membres âgé de 21 ans. Il a sauté sur une mine pendant l'évacuation de corps à Krasnopilia, dans la région de Donetsk. Alors, quand on l'a emmené chez le médecin, il était encore en vie et durant toute la nuit, ils ont tenté de le réanimer, mais il est mort. La gratitude des familles aussi, hein, des tués reste la meilleure des motivations à continuer leur recherche et leur fouille, parce que pour lui, le plus important, c'est que les familles des tués et des disparus sachent qu'on n'oublie pas leurs proches. Ils ont risqué, ces gens-là, leur vie pour que nos enfants aient un avenir, pour qu'il y ait une Ukraine. La vie de chaque personne en Ukraine, c'est l'acquis de toute une nation. Elle est inestimable. Et si nous ne le comprenons pas, nous ne valons rien en tant qu'être humain. Les vivants, on peut les défendre, mais qui va défendre les morts, se pose la question. C'est la question qui se pose, ce cher Oleg. Eux-mêmes ne le peuvent plus. Nous devons préserver chaque vie perdue dans nos mémoires et nous devrions nous aider les uns et les autres. Et quand on lui demande « Pourquoi tu récoltes ces restes? » Ben, je réponds. Et si c'était ton enfant, tu ne le récolterais pas? Et pour moi, c'est personnel, ressentir la douleur de l'autre et partager cette douleur avec lui. C'est notre humanité, c'est notre lutte. Il faut se battre pour chaque âme et chaque corps. Mmh. Et c'est comme ça qu'il conclut cet article. Et parce qu'il nous parle de la guerre en Ukraine, hein? Mmh. On est tous au courant, on voit en ce moment, là, je trouve ça triste, un lundi matin, parler de guerre, mais on est entouré de guerre et d'actualités qui parlent de guerre. Mais il y a eu d'autres guerres et juste à penser qu'il y a beaucoup de pertes. Et quand on parle de pertes aussi, auprès, il y a des soldats, mais aussi des pertes humaines, des civils. Ceux qui se font bombarder, hein? Ceux qui se retrouvent dans des camps de réfugiés, qui meurent pour des maladies ou de mauvais traitements, la torture, etc. Il faut penser à ces gens-là, c'est des êtres humains comme vous et moi. Et en faisant de la recherche, j'ai découvert que la Première Guerre mondiale, il y a eu quand même 10 millions de soldats qui sont morts pendant cette Première Guerre mondiale. On parle des Russes, ça c'est Russes, Français, Allemands, tous intégrés, là. Et puis à la Deuxième Guerre mondiale, on a comptait entre 20 à 25 millions de soldats. Et ça, on ne pense pas aux civils qui viennent augmenter justement le registre de ces décès. Et puis, ben justement, les recherches des morts dans les différentes guerres, il s'en fait aujourd'hui encore. On parle de l'ex ce matin. Mais c'est un travail de mémoire, de fouilles historiques. Hein? Et c'est surtout mené par des passionnés. Et leur objectif est de retrouver les dépouilles des soldats disparus et de leur donner une sépulture qui est digne et d'identifier au mieux certains restes et de les restituer à leur famille. Il y a en France deux passionnés, si vous voulez faire des recherches. Il y a Philippe Sugg, S-U-G-G, je ne sais pas si je prononce bien, et Gérard Louis, qui eux sont en Lorraine, et eux, ce sont des passionnés sur leur territoire de retrouver des disparus, des différents disparus allemands, russes, etc., sur leur territoire. Et j'ai appris aussi qu'au Canada, il y a un programme d'identification des pertes militaires qui cherche justement activement à identifier les restes de soldats de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, les fouilles sur le terrain, ben, c'est qu'on va faire de la prospection sur les anciens champs de bataille. On recherche aussi dans les registres de cimetières, les journaux de l'époque et les contrôles postaux, aussi les lettres qui étaient envoyées. L'objectif de tout ça, ben, c'est de donner un nom aux inconnus, à ces inconnus, d'où le soldat inconnu, probablement, c'est sûrement ça, retrouver leur identité, rendre hommage et permettre aux familles de faire leur deuil, entre autres, hein. Et c'est une restauration de la dignité, c'est offrir une sépulture digne à ceux qui sont tombés au combat, souvent dans des conditions assez difficile, et la lutte contre l'oubli, hein, faire revivre l'histoire des soldats, y compris ceux des colonies, et ne pas les oublier, ces gens-là. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi ce texte, parce que je trouvais ça inusité, mais c'est quand même, même si on est mort, on est le souvenir de quelqu'un. Hein.
Oui, tout à fait.
Oui.
Ah, mon Dieu, oui. Tu sais, je pense toujours à ces films, hein, qu'on voit où les gens perdent des proches, hein, pendant la guerre,
oui.
Et le travail que ça leur prend pour retrouver. Je pense toujours à ce film aussi de Claude Lelouch, Les uns et les autres.
Oui,
qui fait
oui.
beaucoup, hein, dans
oui.
ce devoir de mémoire. En tout cas, c'est intéressant ce que tu nous racontes là. Merci beaucoup à toi, Daniel. Et puis
oui.
nous, on prend congé la semaine prochaine, lundi, ça fait que ça sera dans 2 semaines.
Parfait, on se retrouve. Ah, c'est la fête de la reine, des patriotes, etc. Hein?
Ben, journée de congé. Moi, je vais faire mon jardin la semaine prochaine. C'est
super,
le temps.
Super, puis ouais. du beau temps. Ben, je vous en souhaite à tous. Au
Merci
revoir.
Merci beaucoup. Et nous, après la pause, c'est Louis de Bernis et on va parler donc de cette chronique insolite. Et on reçoit aussi Marcel Dubois. Restez avec nous. Et puis, ben oui, peut-être penser à prendre un petit parapluie, là, celui qu'on peut mettre dans un sac, parce que ça se peut qu'il y ait de la pluie, peut-être même un orage dans beaucoup de nos régions là, où vous nous écoutez. Passez une bonne journée à notre antenne. On revient donc tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Toute ma vie à vouloir être celle qu'on choisit. J'ai rêvé des plus grandes scènes, celles où j'allais former mes idoles. Et aujourd'hui, c'est réussi, c'est mon téléphone qui sonne. On me dit, c'est à ton tour de faire briller le jour. Je rêve encore de ce qui m'arrive, plus besoin de m'endormir. Le sort, mes rêves se réalisent, j'arrive à de foutre en l'air tout ce qui m'éloignait du but. Ce que je voulais, c'était une carrière, peu importe où j'étais rendue. J'ai travaillé jour après jour, j'ai passé par tous les détours, pour qu'enfin on me dise, c'est à ton tour de faire briller le jour. Je rêve encore de ce qui m'arrive, plus besoin de m'endormir. Le sort, mes rêves se réalisent, j'arrive à je rêve encore, oh, 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 oh.
Tout ce qui arrive, une chanson de Catherine Sans Regret.
Bon, on va parler d'oiseaux misogynes avec Louis de Bernis. J'aurais même dit des oiseaux misanthropes, tant qu'à y être.
Hein? Non, on va parler, oui, effectivement, d'oiseaux. Les oiseaux des villes, on va préciser.
Oui.
Mais c'est sérieux quand même. C'est une étude scientifique dont je vous parle ce matin. Ils sont, on les voit ici aussi, perchés sur les lampadaires ou rôdent souvent près des terrasses quand les beaux jours reviennent.
Oui, en regardant de haut, en disant « Ah, la cible est là, oui. »
Exactement, en surveillant les miettes qui vont tomber.
Oui.
Ils nous observent du coin de l'œil. Et bien avec plus d'acuité qu'on ne l'imagine probablement. Les oiseaux savent distinguer les hommes des femmes et adoptent même un comportement différent en fonction de qui ils rencontrent. C'est ce que révèle une étude récente. La gente féminine les effraie davantage, visiblement. C'est une inégalité qu'on n'avait peut-être pas soupçonnée. Les oiseaux des villes ont davantage peur des femmes que les hommes, d'après cette étude publiée en décembre 2025 dans la revue People and Nature. Pour arriver à cette étonnante conclusion, les scientifiques ont effectué pas moins de 2701 observations de 77 espèces d'oiseaux différentes. C'était entre avril et juillet 2023, dans 7 villes de 5 pays européens, en Espagne, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en France. Ils ont analysé la distance de fuite de chaque spécimen rencontré, c'est-à-dire la distance en mètres entre l'observateur et le point où l'oiseau s'envole et s'éloigne de la personne en approche. Pour chaque expérience, le processus a été scientifique et rigoureux. Deux ornithologues qualifiés, un homme et une femme, de taille et de corpulence semblables, habillés des mêmes vêtements, adoptant le même comportement, se sont promenés, séparément, en milieu urbain, généralement dans des parcs, des espaces verts. Chaque participant s'est approché d'oiseaux présentant un comportement détendu dont la réaction, l'espèce et parfois même le sexe ont été relevés par ceux qui faisaient l'étude. Parmi les plus observés figurent le merle argenté, la colonne des marais, la pie grise ou encore le passereau domestique. Et alors que les chercheurs s'attendaient à ce que les volatiles se méfient davantage des hommes, ils ont constaté tout l'inverse. Les oiseaux fuyaient plutôt à l'approche des femmes. Cette différence liée au sexe de l'observateur était statistiquement significative et a été constatée dans tous les pays, assure l'étude, la première à traiter de ce sujet. En tant que femme travaillant dans ce domaine, j'ai été très surprise de constater que les oiseaux réagissaient différemment à notre présence, s'est étonnée Janina Benedetti, qui est écologue à l'Université de Prague et co-autrice de l'étude. De nombreuses études comportementales partent du principe que l'observateur humain est neutre, mais ce n'était pas le cas pour les oiseaux urbains de notre étude, ce qui pourrait avoir des conséquences dans l'égalité homme-femme en science. Alors, pourquoi est-ce que les oiseaux adoptent-ils un comportement différent à l'approche d'une femme ou d'un homme ? Pour l'instant, les scientifiques l'ignorent. Contacté par Life Science, John Marlus, qui est professeur d'écologie à l'Université de Washington, émet des réserves et invite à être prudent. Il dit notamment « Je ne doute absolument pas que les oiseaux nous prêtent beaucoup d'attention et réagissent aux humains de manière significative. Nous avons simplement besoin de davantage de recherches pour mieux comprendre pourquoi cet effet était si constant. » L'étude, elle, avance quelques hypothèses et il y en a une, si c'est la bonne, qui est vraiment impressionnante. Bien que les femmes dans l'étude aient caché leurs cheveux longs, donc vraiment, visuellement, l'homme, la femme étaient difficiles à distinguer, des différences morphologiques et dans la démarche aussi ont pu jouer. Tout comme l'odeur, les oiseaux ayant un puissant odorat. Enfin, et si c'est ça qui est vérifié, c'est incroyable, il faut peut-être y voir un héritage lointain de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs du Néolithique. Si cela est encore débattu, des travaux scientifiques suggèrent que les hommes chassaient les grandes proies, tandis que les femmes se concentraient davantage sur les proies plus petites, comme les oiseaux. Et il y aurait donc un héritage qui reste encore des milliers, millions d'années, quasiment même, dans le cerveau de ces petits oiseaux.
Ah, comme on le dit si bien, ceci explique cela.
Exactement.
Mais j'ai toujours la blague que je fais quand deux oiseaux se parlent au-dessus de nos têtes, puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit je te donne 10$ si t'atteins sa tête. L'autre dit, non, si t'atteins son pot de yogourt. Puis l'autre dit 20$ s'il le mange. Bon, ça y est. Bon, OK, on arrête les blagues. Bon, il faut bien rigoler un peu. 110 000 $ pour s'occuper d'un chien au Royaume-Uni. Quelle sorte de chien ça peut être?
Un chien qui vit dans une très belle maison avec une famille qui gagne beaucoup d'argent.
Ah oui.
C'est une offre d'emploi atypique, effectivement, qui a été publiée récemment aux Royaume-Uni, qui proposait de s'occuper d'un chien, jusque-là rien d'anormal. Mais le salaire plus que confortable et les conditions de travail vraiment agréables ont attiré des milliers de candidats ces derniers jours. C'est une alerte emploi de rêve, si on veut. Elle stipulait « Nous recherchons un accompagnateur de chien et assistant de domaine fiable et attentionné ». C'est ce qu'on pouvait lire dans c'était une annonce publiée par l'agence Achieve Hospitality, qui est spécialisée dans le recrutement de personnel pour les résidences haut de gamme au Royaume-Uni. Cette résidence cherchait la perle rare dans un domaine privé situé dans le Surrey, près de Londres. Le rôle consiste principalement à assurer une présence constante sur la propriété, à veiller au bien-être et à la routine quotidienne du chien, de la famille, à aider l'équipe domestique pour des tâches de soutien légères sur le domaine. Parmi ces tâches, réchauffer des plats pour le chien préparés par un chef, c'est donc un chien qui va très bien, préparer des petites collations ou encore nettoyer la cuisine après utilisation, le profil recherché doit être chaleureux, calme et fiable. Il s'agit d'un poste à temps plein avec des horaires du dimanche au jeudi de 9h à 18h. Une certaine flexibilité est toutefois attendue en fonction de la présence de la famille sur le domaine. Concernant l'animal, il faut l'accompagner à ses rendez-vous chez le vétérinaire, au toilettage, au dressage, lui tenir compagnie et veiller à ses repas et le promener régulièrement dans le domaine. La personne retenue pourra même être logée sur place, éventuellement avec son ou sa partenaire, et même son propre animal de compagnie, si c'est nécessaire. Eh bien, voilà, toutes les conditions de cette annonce ont fait qu'en seulement 3 jours, elle a suscité un tel engouement qu'elle a dû être retirée, désactivée de la plateforme, parce que des milliers de candidatures ont afflué. Pour cause, c'était 60 000 livres sterling qui étaient proposés, l'équivalent d'un peu plus de 110 000 dollars canadiens. De quoi susciter quelques vocations pour ce chien qui a une vie de rêve.
Ben en fait, moi, je fais la même application pour être le chien.
Oui, effectivement.
Avec ce genre de traitement-là, évidemment. Allez, merci beaucoup, Louis de Bernis. On se repart dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, comme je dis, c'est congé ici à l'émission.
Avec plaisir.
Et nous, on s'en va en musique.
te dira un jour, baby, nous on touchera les étoiles.
La chanson Fou de nous deux de Claudel.
Marcel Dubois est une figure de proue de la création théâtrale et son départ de la direction du théâtre aux Écuries qu'elle a cofondé il y a 15 ans bien, marque la fin d'un cycle historique, mais aussi le début d'un autre quand même. Elle s'apprête à passer le flambeau à une nouvelle structure de direction avant de rejoindre le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Marcel, bienvenue à l'émission au quotidien.
Ça fait plaisir. Merci de me recevoir.
Ben oui, ben je vais souvent, moi, au Théâtre aux Écuries. J'aime bien votre programmation, comme vous le savez. Alors, quel sentiment vous habite au moment de clore ce chapitre aux Écuries?
Oh, c'est un sentiment de, je dirais, vraiment du devoir accompli. Ça fait 15 ans que j'y étais. J'ai travaillé à la cofondation là, avec mes collègues, là, évidemment, de tout ça à l'époque, en 2001, quand ce rêve-là fou de créer les écuries a pris racine. On a réussi à ériger les nouveaux murs de ce théâtre-là et à le faire vivre, à tout bâtir. Il fallait tout bâtir, de tous les protocoles, de la billetterie jusqu'au développement du public, les programmations et tout. Puis je pense que 15 ans après, ben je pars avec le sentiment que les choses sont en place pour que ce théâtre grandisse, continue de grandir, oui.
Une question qu'on me pose souvent, parce que j'en parle en honte, mes amis savent que je vais souvent aux écuries. Pourquoi ce nom?
Ah, c'est une bonne question, parce que les gens peuvent penser qu'il y avait à l'époque d'anciennes écuries à cet endroit-là, mais pas du tout, c'était une boulangerie. Donc, ça. Pourquoi aux écuries? Parce que à la fondation, on cherchait un nom qui était plus évocateur, qui racontait un peu une histoire. Donc, aux écuries, c'est un peu ça. On est plusieurs compagnies. C'est un repère de compagnie productrice de théâtre. Donc, on est moins une grande institution ou un producteur comme d'autres grands théâtres au centre-ville peuvent l'être. Donc, l'idée, c'est un peu des boxes, une à côté de l'autre, des écuries une à côté de l'autre, des artistes qui s'entraînent. On voulait aussi que ce soit un lieu, c'est ça, d'entraînement, de travail, de recherche, davantage que de peut-être d'industrie culturelle ou de performance. Donc, ce côté-là, un peu des écuries où on travaille, on se renforcit, puis quand on est prêt, on se présente devant le public. Puis après, la dernière raison qui nous fait un peu sourire, c'est que pendant que dans les grands châteaux, il y a les fêtes mondaines, les fêtes païennes sont aux écuries. Et puis, nous, ça nous fait plaisir de penser que c'est là que ça se passe.
Écoute, c'était ma curiosité, hein, tout à fait. Au Théâtre aux Écuries, on dit que le théâtre a été conçu sur un modèle de direction collective, de mutualisation des ressources. Alors, pourquoi ce mode de gestion dès la fondation du théâtre?
En fait, je pense qu'on n'aurait pas réussi à créer aux Écuries si c'était pas basé justement sur un modèle de gestion, gouvernance, direction collective, donc très différent de ce qui se fait en théâtre habituellement, où c'est vraiment plus un directeur ou une directrice artistique qui décide la programmation, donc quelque chose de très vertical. Donc, quand on a créé aux écuries, les gouvernements nous disaient que il y avait assez entre guillemets de sièges de théâtre à Montréal pour le nombre d'habitants et tout. Et nous, ce qu'on leur a fait valoir, c'est vraiment que ça prenait un lieu pour les compagnies relèves et formes alternatives qui ne se retrouvaient pas dans les autres institutions et qui allaient collectivement se doter d'un outil. Donc, en ouvrant ce théâtre-là, ils desservaient quelque part une large communauté. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à les convaincre. Et je continue d'être persuadée qu'il y a vraiment... que c'est un modèle unique qui a fait ses preuves justement en 15 ans. Tout le monde nous disait « Ah, ça va pas fonctionner, diriger en collectif. » Eh bien non, ça fonctionne très, très bien. Et on a appris avec le temps qu'est-ce qui est un geste collectif où on se met tous d'accord et c'est quoi les espaces où chacune des compagnies qui font la direction artistique, chacun des artistes, peuvent avoir leur propre expression forte. Donc, en respectant les identités fortes de chacun des artistes et en décidant parfois des choses ensemble, mais parfois en faisant confiance à nos collègues, ça crée un lieu où il n'y a pas une vision unique de ce que c'est le théâtre, mais plutôt une représentativité de ce qu'est le théâtre, de la relève et des formes alternatives aujourd'hui au Québec. Ouais.
On a vu des choses assez extraordinaires cette année. Je pense aux réalités parallèles. Et puis, je ne sais pas si j'ai le bon titre, Croyez-vous aux fées?
Oui, exactement.
Alors, c'était
exactement.
Des choses que je ne crois pas qu'on aurait vues ailleurs. Alors, oui, c'est un théâtre qui a une proposition très, très différente et très rafraîchissante, d'ailleurs. En 15 ans... Oui, allez-y.
Non, je veux dire, ben, absolument, c'était ça aussi, c'est-à-dire, ben, si on crée un nouveau théâtre, c'est pour faire les choses différemment, mais aussi pour présenter... pour que les théâtres, les compagnies qui ont des démarches de théâtrales différentes aient un espace pour rencontrer leur public. Donc, je suis contente de voir que vous le ressentez comme ça aussi.
Ben, et puis, j'allais ajouter qu'à chaque soir, je suis allé voir du théâtre chez vous, c'était plein. Alors,
oui.
Il y a un public. Il y a certainement
oui,
un public.
Absolument, ça va très, très bien. On se va voir, c'est vraiment, on est ravis de ça. Puis le fait aussi qu'on soit bon, dans Villeray, Parc Extension, Saint-Michel, ça nous donne peut-être un petit peu plus de liberté parce que justement, on appartient peut-être moins au mouvement là, du centre-ville de l'industrie culturelle ou de puis comme on fait vraiment un développement de public, de quartier scolaire, citoyen, et je pense que c'est là que ça paye au fil du temps, puis les gens sont heureux de venir. Ils vivent quelque chose quand ils viennent aux écuries, oui.
Bon, là, j'ai toujours une question difficile à poser. En 15 ans, là, on l'a dit, les écuries, c'est un incubateur majeur pour la relève. Quelle rencontre ou quelle éclosion artistique que vous avez vue vous a marqué le plus pendant votre mandat?
Étonne
cette question-là.
Oui. C'est une grosse question. Mais je vais répondre. Enfin, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs des aventures. Mais ce qui est beau, c'est de voir, par exemple, une artiste comme ça, Karine Sauvé, qui a une compagnie qui s'appelle Mammifère, qu'on l'a accompagnée pour la première fois il y a à peu près une dizaine d'années, elle créait à peine sa compagnie. On l'a soutenue 2, 3, 4 fois pour ses différents spectacles, qui est des formes un peu hybrides entre la performance, le chant, le théâtre, la sculpture, l'art visuel. Et maintenant, ben, elle tourne, elle est soutenue par le Centre national des arts du Canada, elle a un rayonnement très grand. Et donc, quand on voit des expériences comme ça, où je pense à Jocelyn Sioui, qui maintenant, avec mon oncle Jules, est rendu à sa 102e représentation, quand on l'a attrapé au début de son projet de mon oncle Jules, qui est un théâtre qui raconte une histoire qui raconte l'histoire de son grand-oncle qui est Jules Sioui, qui est une figure marquante des communautés autochtones, mais dont l'histoire a complètement effacé le parcours. Donc quand on a, c'est comme un peu le René Lévesque des Autochtones de l'époque. Et quand on lui a permis de développer sa pensée avec des étapes de création, de la recherche, et quand il a été prêt, on l'a présenté, on l'a soutenu pour développer la diffusion. Et là, maintenant, ça fait 4 ans que le spectacle tourne. Je pense à Agamemnon in the Ring aussi.
Qui s'est rendu sur la scène du Denis Pelletier, oui.
Exact. Qui, pareil, devait pas nécessairement tourner parce que c'était un gros show avec une grosse équipe. Tout le monde disait, ça tournera jamais, mais c'était tellement fou. Puis on a réussi à rassembler les bons interlocuteurs autour du spectacle. Puis après, une fois qu'il est passé chez nous, ben, il connaît une vie incroyable partout au Québec. Puis il est repris encore l'année prochaine. Donc ça, je dirais que c'est vraiment, je pense que c'est le côté de l'incubateur artistique des écuries. Quand on le ressent dans des artistes qu'on propulse comme ça, là, c'est très satisfaisant, oui.
Tout à fait. Vous avez aussi dirigé Le Jamais Lu, parallèlement à vos fonctions, jusqu'à l'année dernière. Cette année, c'est Éric Noël qui a repris ça en main. Comment ces deux missions complémentaires ont nourri votre vision de l'écriture théâtrale contemporaine?
Oh, c'est une excellente question parce qu'effectivement, je pense que les deux, en fait, c'est le même mouvement. J'ai envie de dire, Le Jamais Lu cette année avait 25 ans, qui est un festival où on fait lire publiquement des textes inédits d'auteurs, d'autrices émergentes. Donc, quand on a créé ce festival-là, il y a 25 ans, il y avait une envie de prendre une place, de faire entendre ce qu'on n'entendait pas sur les scènes. Et 10 ans après, donc il y a 15 ans, on a créé le Théâtre aux Écuries, qui était comme le lieu qui permettait, oui, aux jamais lus de s'ancrer dans un endroit très précis physique, mais aussi d'embrasser beaucoup plus large. Donc, c'est comme si Le Jamais Lu est plus basé sur le texte et les écuries permettent les productions, en fait. Donc, c'est très complémentaire. Puis, effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir à les voir évoluer ensemble, ces deux organisations-là. Ouais.
On va parler de votre avenir. Vous allez diriger le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que, qui vous attire? Quelle sorte de défi artistique y voyez-vous?
Ben, en fait, c'est ça, des fois, je me dis, j'ai l'impression que je passe du parti de l'opposition au parti au pouvoir. C'est-à-dire que ce soit au Jamelu ou au Théâtre aux Écuries, on a une grande liberté parce que notre mandat est justement sur la découverte, l'impulsion, l'incubateur de nouveaux talents, etc. Et notre salle, quand même, elle est plus petite, c'est une 140 places. Donc, c'est sûr qu'en arrivant au théâtre d'aujourd'hui, ben mon défi, c'est de garder tout cet amour-là, puis toute cette capacité peut-être à fédérer un milieu, à rassembler des nouvelles voix, à faire découvrir au public des nouveaux artistes, tout en embrassant ceux et celles qui ont créé notre dramaturgie. Je pense à des Carole Fréchette, des Fanny Britt, des Olivier Chouanière. Donc, d'essayer de d'amener à la fois mon expertise et de que cette relève-là s'accroche à notre histoire de la dramaturgie qui vient avant elle. Donc, d'arriver à créer un lieu transgénérationnel, là, j'ai envie de dire, où la parole des auteurs, des autrices, qui peut-être que moi, même si aux Écuries, on est dans toutes sortes de formes, moi, en étant jamais lu, mon amour premier est quand même celui des textes. Donc, d'avoir un véhicule comme le théâtre d'aujourd'hui pour essayer de créer une dramaturgie québécoise forte, vivante, multigénérationnelle. C'est vraiment un privilège, là, ouais.
Bien, merci beaucoup, Marcel Dubois. Puis je rappelle donc que Michaël Vitali et Marilyn Perrault, si je ne me trompe pas, assument désormais la co-direction pour poursuivre la mission. Juste rapidement, en quelques mots, un conseil pour votre succession?
Bien, je pense qu'ils vont être parfaits. Michael a été mon directeur administratif aux Écuries pendant 8 ans avant qu'il prenne là la co-direction générale. Donc, je pense qu'il y a tout en main. Et Marilyn Perrault, pareil, elle est cofondatrice artistique avec moi. Donc, c'est des gens qui connaissent très bien. Je dirais d'aimer mettre l'ego personnel de côté pour aimer travailler en collectif. C'est ça, les Écuries. C'est la force du nombre. Et ça, je suis sûre qu'ils ont ça en eux et en elles très fort. Mais oui, c'est ce que ça prend aux Écuries. Aimer faire les choses en gagne.
Merci beaucoup, Daniel Dubois. Je rappelle que jusqu'à c'est 15 juin, vous allez encore diriger le Théâtre des Écuries.
Oui.
Et par la suite, vous allez vous rendre au Centre du Théâtre d'aujourd'hui. Puis, je vais juste souligner qu'en 2024, on vous a nommé membre de l'Ordre du Canada. Belle récompense. Merci beaucoup encore.
Merci à vous. Au plaisir. Au revoir.
Toi qui voulais te fondre dans l'air, tordre l'horizon pour faire passer la lumière, éviter la pluie et les discours austères, et enfin respirer juste un peu d'air. Comme s'il nous manquait un peu d'essentiel. Juste sourire, toi tu veux grandir et pas juste vieillir, toi tu veux choisir et pas juste obéir, quitte à prendre le risque un jour d'exister. Sans devoir répondre au ciel qui gronde, avorter du poids des regards qui nous inondent, et avancer sans arrière-goût amer. Comme s'il nous manquait un peu d'essentiel.
C'était la chanson essentielle de Monsieur Raff.
Et puis nous, après la pause, on va parler de Sous la voûte du présent et on va aussi recevoir Elle Barbara à l'émission Au quotidien. Je vous rappelle que c'est de la pluie en après-midi peut-être, hein, des risques de pluie, d'un orage, fait que même s'il fait beau ce matin, sortez avec un petit parapluie dans votre sac au cas où.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
La machine à jambier, il y a trop de com.
Génération qui filme tout, on est nos propres papazis. Le dupé all black comme le cœur d'un papa assiste. Et qui fait du business en exploitant nos vices. Et qui brasse dans le jeu l'alcool et le cannabis. Cacher les femmes et les enfants, y'a les méchants en cravate. Dehors c'est la guerre, ouais mais toi t'es dans un vibe. Toi t'es dans la fête, toi t'es dans le sale. Dis-moi ce que t'es prêt à faire pour faire des selfies sur le sable. Dis-moi ce que t'es prêt à faire, juste pour sentir l'odeur des billets. On t'a mis tes genoux à terre, c'était pour sucer ou bien prier. À ce qui paraît, je suis pas bon même. Y'a que les balises dans la poche. La confiance n'excuse pas le contrôle, même si on est proche. Donc j'ai le cœur sur la main, mais j'ai la main dans la poche. Faut pas nous croiser dans la nuit. Moi j'ai le jouet qui fait les bobos, bobos. Dans le business y'a pas d'amis. Tu peux la faire à tout le monde, mon bébé, mais pas moi. Quelques résidus de farine qui traînent sur le CV. J'oublie pas d'où je viens, que c'est la musique qui m'a sauvé. Ne crois pas Montréalais qui dit qu'il t'aime ou qui veut t'aider. Il veut pas ton cœur, il veut ta chatte ou bien ta tédé. Ici tout le monde est brisé, tout le monde est bizarre. Plus top même au club, c'est MTL, c'est pas Ibiza. Toujours les mêmes qui hate, on prend des risques. Qu'est-ce que vous faites, vous, à part des déficits et prendre des lettres sous casa Red Bull. C'est vrai que je me suis rangé, mais j'ai toujours la rage. Et mes yeux sont restés rouges, depuis l'époque du bis rageable. Le stress nous a rongé. Ça se voit sur nos visages. L'argent me fera rajeunir. C'est ça le prix d'une vie sale. Nos frères ont fait des gros sous. Ça crée de la bisbille. Je fais ma chasse à chaque 10 jours ou à chaque 10-10. Je me rappelle des regards, je me rappelle du mépris. J'suis toujours le même gars, mais c'est plus le même prix. Dis-moi ce que t'es prêt à faire, juste pour sentir l'odeur des billets. On t'a mis tes genoux à terre, c'était pour sucer ou bien prier. À ce qui paraît, j'suis pas bon même. Y'a que les balises dans la poche. La confiance n'excuse pas le contrôle, même si on est proche. Donc j'ai le cœur sur la main, mais j'ai la main dans la poche. Faut pas nous croiser dans la nuit. Moi j'ai le jouet qui fait les bobos, bobos. Dans le business y'a pas d'amis. Tu peux la faire à tout le monde, mon bébé, mais pas moi.
C'était Lost, chanté par Paparazzi.
Sous la voûte du présent, c'est un projet multidisciplinaire dont le vernissage se tiendra ce vendredi 15 mai à l'église du Sacré-Cœur de Jésus. C'est sur la rue Ontario et Plessis pour ceux qui habitent à Montréal. Pour en parler, nous recevons André Papathomas, qui est créateur et directeur de cet événement. Bonjour André, bienvenue à l'émission.
Bonjour, bonjour.
Qu'est-ce qui a été l'étincelle de la création de cet événement?
Une rencontre entre vieux copain, je dirais.
On n'est pas vieux, on n'utilise pas ce mot-là ici.
Non, mes copains de longue date.
D'accord, ça c'est bien.
Je dirais, mais tout de même, je dois, par contre, ajouter à ça que je pourrais les nommer peut-être tout de suite, oui. Ce qui nous amène vraiment à, je veux dire, c'est sûr que moi, je suis le plus jeune. La moyenne d'âge est assez élevée, en fait. C'est des gens qui ont une longue carrière derrière eux. Armand Vaillancourt,
oui.
qui se passe de présentation, en quelque sorte, dans le milieu des arts visuels, a quand même, c'est incroyable, a quand même, là, 96 ans, hein, puis il est vraiment fort.
Il est encore d'aplomb. En forme, hein?
En forme, oui. Là, il vient s'installer, on s'installe à partir d'aujourd'hui, toute la semaine. Il est là, hein?
J'ouvre une parenthèse, il faut arrêter de penser que quand les gens ont un certain âge, proches, là, c'est clair qu'ils sont plus en forme. Non, il y a des gens qui nous surprennent.
Ah, ouais, ouais. Ouais. Oui, il y a Armand... Armand Vaillancourt, il y a André Fournel. André Fournel, qui a... Là, je ne nommerais pas l'âge de tout le monde, c'est un peu ennuyant, mais André Fournel, tout de même, il a 80 bien passé. Jacques Charbonneau, l'autre sont... Donc, je continue à les nommer, mais tout le monde a une carrière longue derrière eux, une pratique très, très forte.
André, vous vous retrouvez
je les nommerai à la fin.
Au cœur de
ces gens.
De ce groupe-là.
Ben, moi, j'étais... C'était une bande d'amis qui gravitait évidemment autour de l'art visuel, bien entendu. Moi, par contre, je suis musicien, mais j'étais chum avec ces gars-là.
À la lecture du communiqué, je me disais, mais il me semble qu'André est musicien, puis là, tout à coup, arts visuels. Donc, une rencontre entre les deux.
Ah oui, absolument, qui d'ailleurs m'a nourri beaucoup à cette époque. Ça m'a beaucoup nourri, je dirais. À cette époque où je côtoyais beaucoup en même temps l'œuvre d'Antonin Artaud, où j'étais très près de la littérature, de la poésie aussi. Et j'avais cette chance de côtoyer ces gars-là qui me ramenaient un peu... ça me faisait rêver en quelque sorte, en imaginant le Montmartre de 50-60 ans avant, tu imagines la discussion de ces gens autour d'un verre à parler d'art, à créer. Bon, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe autour d'un verre, mais par contre, il y a l'art, il y a la création qui est toujours omniprésente, si tu veux, même sur autour d'une table. On s'est vu beaucoup, on se voyait beaucoup, on était dans un contexte de vie très, très artistique. Et là, on s'est revu, évidemment, la vie, là, ça fait un moment, amener chacun un peu dans une direction et une autre, mais on s'est revu récemment ensemble. Puis on s'est dit, ben là, on devrait organiser quelque chose. Et comme moi, je travaille dans cette église où a lieu cette exposition depuis... L'église du Sacré-Cœur de Jésus. Depuis 25 ans, je répète, là, j'ai cette chance incroyable d'avoir accès à ce lieu. Il y en a un qui a proposé, bon, on pourrait faire ça à l'église. Et là, il y a une thématique qui nous est tombée dessus, ni plus ni moins, je veux dire, qui s'est imposée.
Sous la voûte?
La voûte du présent. Donc, c'est vraiment... c'est sûr que tous ces gens... Et ça, c'est un aspect important, en fait. C'est intéressant qu'on parle, en fait, de l'âge un peu de chacun, c'est-à-dire c'est une question générationnelle. Une relation établie envers, si vous voulez, la question religieuse ou la jeunesse de ces gens, où la religion était omniprésente, très, très, s'imposait beaucoup, était même lourde à vivre. Moi, j'ai vécu la même chose. J'ai vécu la fin de ça, moi, où on priait, on faisait une prière au début de chaque jour à l'école. On allait à la messe tout près une fois par semaine. Jouait au baseball l'été au Parc Jory. On faisait la prière avant chaque match. C'était une présence très forte. Donc, il y avait au départ un propos, il s'est élevé un propos assez acerbe, quelque part assez critique de chacun quand on a parlé vraiment du contenu de l'expo, de la création de chacun. Et ça s'est rapidement tassé, par exemple. C'est-à-dire, on s'est rencontrés dans l'église et ce qui est ressorti de ça, tout cet aspect un peu acrimonieux, un peu très critique... par rapport à la religion, a pris le bord assez rapidement pour vraiment se retourner vers la grandeur de ce que peut être un temple, un lieu d'écho. Et là, on se retrouve dans un lieu magnifique, un lieu d'écho, un lieu où le plafond est un ciel. C'est incroyable. Et d'ailleurs, le plafond qui est la voûte d'une église, on appelle ça la nef, le centre de l'église. C'est une coque de navire inversée. C'est un bateau. Je veux dire, quand on porte ces regards-là, je veux dire, les regards liés à l'architecture, liés à ce que la grande valeur culturelle qu'ont eu ces lieux dans la vie de chacun, c'est pas juste négatif. En tout cas, tu vois, donc toutes les créations, chaque création a pris une autre direction et est devenue vraiment...
Ce sont des créations pour cette exposition.
Ouais, pour cette exposition et liée au lieu.
Liée au lieu.
D'accord. Et à la religion, en fait, si vous voulez, d'une certaine façon.
Je vais sortir ce qu'on m'a souvent dit, puis je suis un peu d'accord avec ça. Faut quand même... On a un passé religieux, catholique, au Québec. On l'a mis de côté. On ne peut pas dire qu'on l'a rejeté avec la Révolution tranquille, mais il y a quand même, des choses que l'Église a faites, si n'eût été de l'Église, nous n'aurions pas le système d'enseignement qu'on a présentement, ni le système de santé, malgré tous les défauts qu'on peut leur trouver. Alors, il y a quand même des côtés qu'on doit peut-être ne pas jeter avec l'eau du bain, comme on dit. Hein?
Non, effectivement. Puis, il y a aussi, pensons tout simplement à ces gens qui sont allés prier, là. Prier, c'est un petit... Des petits espoirs qu'on, oui, qu'on marmonne.
Oui.
Ça, là, ces petits marmonnages de prières qui, pour moi, vivent encore dans l'écho, bien que je sois pas croyant et tout ça. Ce regard poétique porté sur cet homme, cette femme, assis, la tête penchée, en train de marmonner sa petite prière qui reste dans l'écho du lieu. Je trouve ça magnifique et il y a un grand respect à porter à ça. Ces gens-là, ils croyaient ça, ils croient pour d'autres, pour plusieurs aujourd'hui encore, peu, mais bon. Mais
donc, ça se retrouve dans les œuvres.
C'est une grande poésie, c'est magnifique, oui, forcément. Mm-hmm. C'est un respect, ce respect-là se retrouve dans les œuvres. Ce regard qui est grand, en fait.
Alors, le soir du vernissage, il va y avoir une table ronde, on va discuter.
Pas le soir du vernissage, oui, absolument. C'est une semaine plus tard, c'est le 23. On pourra faire le tour des dates à la fin, si vous voulez bien. Mais oui, et ça, c'est très important, parce qu'il reste que, malgré ce respect porté au lieu, porté à tout ce qu'il a transporté pendant des siècles, tout de même recèle plusieurs traits qui risquent de choquer. Les gens de l'Église, les gens de la fabrique, par exemple. Ouais. Wow, on habite la chair. Paul Grégoire habite la chair de petit Jésus qui l'a moulé, sorti de la croix, ou les bras qui forment une ronde. Ce même Jésus qui, dans le fond, est ici humanisé comme on humanisait le petit Jésus qui faisait pipi dans l'étoile Quattrocento et après. C'est magnifique ce qu'il fait, ce qu'il a fait, mais ça peut être vraiment choquant. Donc, pour pouvoir justement élever le niveau, de proposer ce que l'art peut apporter dans les lieux sacrés et aux gens qui les côtoient normalement, j'ai organisé une table ronde pour discuter donc du devenir des symboles religieux dans une société laïcisée.
Mm-hmm.
Et là, on entre dans quelque chose d'absolument magnifique et qui est tout à fait, qui se débat un peu partout au Québec présentement.
Oui, je vais quand même souligner les participants. Il y a Franck Callard, conseiller...
Non, pas du tout. Ah. Excusez-moi.
Ouais. Ce sont les artistes qui participent, excusez-moi, oui.
Oui, est-ce que vous voulez qu'on...
Allons-y, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. À cette table ronde, qui sera là?
À cette table ronde, il va y avoir Caroline Hott, professeure de l'UQAM. J'ai pas la liste sous les yeux, là, mais bon. Monseigneur Roger Dufresne, qui est curé de la paroisse, qui est le Monseigneur.
Oui.
Daniel Leroux, qui est organiste titulaire, qui est, qui a enseigné toute sa vie, en fait, les sciences morales et qui est très, très près de tout ce que ces symboles peuvent représenter aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une réflexion très claire, très intéressante. Et Jacques Néwashish, qui est un Atikamek, qui est un bonhomme, qui va faire d'ailleurs une courte cérémonie à ce moment-là. Imaginez quand même une cérémonie, si vous voulez, à l'intérieur d'une église.
Oui, les herbes sucrées.
Ça va être quelque chose d'assez particulier. Puis un clin d'œil, une réconciliation, du moins une proposition réconciliatrice. Là, je trouve ça merveilleux. Lui va être à la table ronde. Claudine Déon, qui est spécialisée dans les questions patrimoniales. Et Éric Giroux, qui est directeur de l'Écomusée du Fiermont. Donc, ça fait un grand panel.
Et ça, quand, cette table ronde-là?
Ça, c'est le 23 mai, à 14h, une discussion avec le public et les artistes, la cérémonie de Jacques Néwashish, et vers 15h, la table ronde avec les gens que je viens de nommer.
Le temps file, donc, on fait le lancement le 15 mai à...
15 mai, un 5 à 8.
5 à 8.
Mettons, où il va y avoir une performance à 6h du Grand Chœur du Centre-Sud. C'est quelque chose qui est très importante, de ramener le Grand Chœur, donc la population du quartier, dans cet événement.
On n'aura pas le temps de faire toutes les dates, mais si les gens veulent s'informer, il y a un endroit où on peut trouver l'information?
Y a un événement Facebook. Si vous tapez sur Facebook, sous la voûte du présent, il y a
Oui, c'est ça que je suis allé, puis tout est assez clair là-dessus.
Tout est là.
Et c'est à l'église du Sacré-Cœur de Jésus.
Oui, Ontario, coin Plessis, excusez. Du 15 mai au 21 juin.
On a le temps. Ouais, hey, merci beaucoup, André. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis c'est une belle proposition. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup.
Merci.
Souvent, mais parce qu'on ne veut pas manquer de temps, alors on va tout de suite aller à notre entrevue. Ce qu'on entendait, c'est World on the Swing de El Barbara. El Barbara, c'est une artiste, une figure montante de la scène montréalaise, l'unique El Barbara, qui va discuter de sa prochaine création au Théâtre Outremont, un spectacle intitulé One Man Show qui promet de bousculer nos perceptions du temps et du genre. Bienvenue à l'émission, El Barbara.
Merci. Merci, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Votre spectacle porte le titre One Man Show, un peu en référence directe à Grace Jones, tout en affirmant votre propre identité. Là, je prends des questions parce que ça sort du communiqué, puis vous me corrigez, s'il vous plaît. Alors, on va parler tout en affirmant votre propre identité d'homme au sein d'un parcours transféminin. Alors, comment cette dualité entre le titre et votre réalité personnelle définit-elle l'espace de liberté que vous occuperez sur scène?
Est-ce que vous pouvez répéter cette question?
Compliqué, hein? Alors, comment on conjugue cette dualité entre le titre du spectacle et votre réalité personnelle quand on est sur scène?
Ben, écoutez, moi, je suis une personne d'expérience transféminine, mais j'ai trouvé qu'il était pertinent d'appeler le spectacle One Man Show, étant donné les conversations qui ont lieu au sujet de la dualité que représentent les personnes trans, à savoir si on est des hommes ou si on est des femmes. Mais au final, je trouve que c'est pas... on fait souvent un plat pour des questions qui restent futiles, parce qu'en fin de compte, qu'il faut reconnaître au-delà d'être un homme ou d'être une femme, c'est l'humanité de tous et chacun.
Tout à fait.
J'ai trouvé ça, étant donné que ce sont des questions qui font partie de ma vie et puis de la vie de plusieurs personnes que je connais personnellement, forcément, ça s'est inséré dans ma démarche artistique. Et puis, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, j'ai trouvé ça intéressant aussi de faire un clin d'œil à Grace Jones, qui, elle, un peu comme avant-gardiste, comme pionnière, avait posé cette question artistiquement lors d'une tournée qu'elle avait appelée One Man Show, à savoir est-ce qu'elle occupe le rôle d'un homme ou une femme sur scène.
Wow! C'est intéressant de faire cette référence-là. Moi, j'ai l'impression, elle, que vous vous réapproprier peut-être un peu tout ce questionnement-là qui est dans l'actualité et vous le réapproprier, puis quelque part, vous en faites un peu d'humour, si je comprends bien.
Oui, oui, c'est fait avec un clin d'œil, avec un petit sourire au coin.
Oui. Ben justement, parlons un peu de cette époque, parce que votre premier acte nous plonge dans la renaissance de Harlem, hein, sous les traits d'un drag king, si j'ai bien compris. Alors, non, c'est correct. Hein? Moi, je suis pas du tout. J'aime bien vous entendre rigoler. Moi, je trouve ça intéressant comme proposition. J'ai pas vu le spectacle. Je vais avec ce qui est écrit dans les informations qu'on m'a envoyées. Mais je suis quand même intéressé de savoir qu'est-ce que cette époque précise où ce renversement des codes masculins nous dit sur la résistance culturelle qu'on souhaiterait incarner peut-être aujourd'hui.
J'ai pas fait d'études en histoire, en histoire de l'art et puis de la performance artistique. Donc, je pourrais pas répondre d'une façon
académique. Non, mais je m'attends à la réponse de l'artiste.
C'est ça. J'ai été inspirée énormément par, entre autres, l'actrice allemande Marlene Dietrich.
Oui.
Et la chanteuse et performeuse américaine Gladys Bentley, qui était une performeuse lesbienne de l'art et puis du milieu de la Harlem Renaissance. Mm-hmm. Et il y avait beaucoup d'images, non seulement à travers ces performeuses et actrices-là, mais aussi dans tous les films qui prédatent le Hays Code de Hollywood, où on voyait beaucoup de travestissements. Et j'ai trouvé ça intéressant que ces propositions artistiques étaient faites il y a 100 ans. Donc, j'ai voulu les inscrire dans le spectacle.
Mais je trouve ça intéressant aussi parce qu'on a l'impression d'entendre certaines personnes qui critiquent à peu près tout, penser, semble croire que c'est tout nouveau, ce phénomène de travestissement, mais c'est pas nouveau. Ça date d'il y a longtemps.
C'est pas nouveau, mais justement, c'était de nos jours, c'est politisé d'une façon différente du côté d'un genre de gauche et droite tant réelle qu'imaginaire qui s'approprient ces discours alors qu'ils ont toujours fait partie de l'expérience humaine.
J'ai l'impression, en regardant la photo de l'affiche qu'on m'a envoyée, tout ça, des documents de presse, j'avais l'impression qu'on était un peu dans l'âge d'or d'Hollywood et puis les jazz bars. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas. Moi, je suis également inspirée par Judy Garland, qui a fait un spectacle légendaire qui est connu un peu comme... qui est réputée comme étant la plus grande soirée du showbiz américain au Carnegie Hall. Elle a fait un grand comeback, un grand retour artistique en 1961 au Carnegie Hall. Et quand j'ai reçu l'invitation du Théâtre Outremont, je me suis dit que, en quelque part, avoir la tête d'affiche au Théâtre Outremont, ça s'inscrivait dans un certain retour, une idée d'un comeback pour moi. Donc, oui, je suis inspirée beaucoup par les courants de performance artistique du 20e siècle. Donc, j'ai un côté très rétro.
Et qui va bien aller avec le décor, parce que l'on s'entend que le théâtre d'Outremont est aussi une espèce d'endroit emblématique où on a l'impression de revoir ces années de l'âge d'or d'Hollywood aussi.
Exactement. Et puis, on ne parle pas... Moi, on va, à travers le spectacle, on va revisiter plusieurs airs... du divertissement et puis de la culture performative. Donc, on parle pas uniquement de la Harlem Renaissance des années 20 et puis de l'âge d'or de Hollywood. On parle aussi du film noir, on parle du nouveau cinéma des années 70. Et pour moi, j'aimerais aussi dire que mon élan artistique est également inspiré par la chanteuse Diane Dufresne, qui, dans les années 80, a organisé des événements happening dans des théâtres conventionnels dans lesquels on n'entendait pas souvent des concerts de rock. Donc, moi, j'essaie d'inscrire mon one-man show dans cette lignée.
Donc, on pourrait peut-être un jour parler d'Elle Barbara comme on parle de Diane Dufresne avec tous ces événements. On aimerait peut-être ça, hein, quand même.
J'aimerais, ouais.
Elle Barbara, donc un spectacle qui traverse le siècle, le divertissement, la performance publique, c'est quand même aussi un défi et tout un défi. Surtout, est-ce qu'on peut parler que le climat actuel n'est pas très bon pour les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres? Comment voyez-vous ça?
Ben, j'ai l'impression que le climat médiatique est pas très bon, mais de mon expérience, moi, j'ai quand même vécu les années 2000 où j'ai pas l'impression qu'on était dans une régression de l'acceptation des personnes issues de la diversité sexuelle. Mais je crois que peut-être que c'est dû à plusieurs facteurs. Je ne suis pas ici pour émettre une thèse, mais peut-être qu'il y a plusieurs éléments dus à une certaine surexposition qui font que il y a des gens qui se manifestent sur les réseaux sociaux et qu'on a l'impression que c'est pire que ça l'est. Mais vous savez, moi, je travaille avec aussi dans le milieu de l'intervention psychosociale avec des personnes migrantes. Et puis, quand on parle de personnes migrantes, on parle de gens qui viennent de pays où c'est beaucoup plus, où la perception de l'homosexualité rend la vie beaucoup plus difficile aux gens. On parle de pays comme de la Russie, de l'Asie mineure, de l'Afrique.
Il y a des pays où c'est atroce, c'est effectivement, oui.
C'est atroce par rapport à ce qu'on vit en Amérique du Nord. Donc,
il faut relativiser. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être un spectacle très divertissant, Elle Barbara. On a vraiment hâte de voir ça. Donc, on rappelle la date, c'est le 22 mai au Théâtre Outremont, c'est bien ça?
Oui.
Et pour se procurer des billets, je pense qu'on peut aller en ligne. On trouve Elle Barbara sur notre moteur de recherche pour avoir trouvé le spectacle ou tout simplement, en fait,
sur le site web de Théâtre Outremont au théâtreoutremont.ca.
Parfait. Merci beaucoup, Elle Barbara, d'avoir été avec nous. Merci.
Merci d'avoir reçu.
OK, à la prochaine.
Bye.
Bye. Eh bien, dans le Cogeco Nouvelles aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, un constat est dressé concernant le manque de formation et d'information pour soutenir les jeunes en difficulté. Des intervenants soulignent que les parents et les éducateurs se sentent souvent démunis face à la détresse psychologique des adolescents, faute d'outils concrets pour détecter les premiers signes de décompensation. L'absence de ressources accessibles et la complexité du système de santé ralentissent la prise en charge préventive. Les experts interrogés indiquent que l'éducation à la santé mentale devrait être intégrée de manière plus systématique dans le milieu scolaire, tant pour les élèves que pour le personnel. Actuellement, les délais d'attente pour obtenir des services spécialisés en pédopsychiatrie demeurent un obstacle majeur au Québec. C'est le temps de remercier l'équipe. Merci à Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche, qui sera de retour demain à l'animation. Et merci à Mathieu Tessier à la mise en onde, à la régie. Moi, je vous invite à un autre rendez-vous aujourd'hui à 17h pour l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On va parler de la journée de lutte, de la journée contre l'homophobie et la transphobie. C'est le 17 mai, donc on reçoit Laurent Brault pour en discuter. Et on aura le grand segment Culture Queer cette semaine. On va recevoir l'équipe de Femme, la série télévisée qui est à TV5+, et aussi Olivier Sylvestre, auteur et dramaturge. Et puis, tu sais, je vous invite à un autre rendez-vous. Je n'ai pas les heures exactes, mais on diffuse depuis samedi l'émission ou le balado-diffusion Affirmation. Et cette semaine, c'est Claudine Metcalfe. Alors, je vous invite à écouter ça un peu partout sur nos horaires. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. À la semaine prochaine, ou dans deux semaines plutôt.